nous faire entendre sa voix et nous montrer à quel point tu nous aimes, à quel point tu es plein de grâce pour nous en Christ. Notre Dieu, nous voulons reconnaître que si ton esprit n'est pas à l'œuvre dans ces moments, alors ça ne portera pas de fruits. On te prie que ton esprit soit à l'œuvre en moi pour m'aider à proclamer fidèlement ta parole, en chacun de nous pour nous aider à recevoir ta parole et qu'elle prenne racine dans nos cœurs. Notre Dieu, on te prie que le fruit de ce temps qu'on va passer ensemble à méditer ta parole, ça soit un amour plus profond pour Jésus-Christ et plus d'assurance dans la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est en son nom qu'on prie ces choses. Amen. On doit reconnaître qu'on vit souvent, j'imagine que vous serez d'accord avec moi, qu'on vit souvent la vie chrétienne en pensant que Dieu n'est pas vraiment satisfait de nous. Est-ce que ça vous arrive de vivre la vie chrétienne avec un sentiment d'échec, comme si on était constamment, chaque jour, en train d'échouer au test de la vie chrétienne? On passe juste avec la moyenne. Comme si Dieu n'était pas vraiment satisfait de nous. Peut-être que vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que Dieu pense de vous? Si vous êtes chrétien, en ce moment même, qu'est-ce que Dieu pense de vous? Et trop souvent, quand on se pose cette question et qu'on essaie d'y répondre, on pense que Dieu est vraiment déçu. Déçu avec nous, qu'il y a plein de gens autour de nous qui font bien mieux et qu'on n'est vraiment pas à la hauteur pour faire partie de son équipe, qu'on n'est même pas à la hauteur pour le banc des remplaçants. Et on vit avec ce sentiment constant d'échec. On a cette idée que Dieu nous tolère, qu'il nous accepte, mais pas parce qu'il a envie, que Dieu nous accepte parce qu'il n'a pas le choix. Un peu comme si on fait une fête de famille, il y a cette personne que personne ne veut inviter. Mais on est obligé de l'inviter parce qu'elle fait partie de la famille. Et donc on l'invite et on la tolère. Est-ce que vous pensez que c'est ce que Dieu pense de vous, qui vous a sauvé, qui va vous accepter dans sa présence, mais pas parce qu'il en a envie, parce qu'il est obligé, parce qu'il n'a pas le choix? On vit avec ce sentiment, chacun de nous, il faut être honnête, il faut le reconnaître. Et la solution, ce n'est pas d'essayer d'en faire plus, on peut être tenté de penser ça. Alors je vais essayer d'être un meilleur chrétien, je vais être plus fidèle à l'Église, plus fidèle pour lire ma Bible, je vais essayer d'arrêter de pécher, je vais vraiment mettre en ordre ma vie et enfin Dieu va être satisfait avec moi. Dieu va être content, Dieu va me donner une bonne note. Mais la solution, ce n'est pas d'en faire plus. La solution, comme on va le voir, c'est de voir la réalité en face. De voir la réalité en face. Et ce matin, en se basant en partie sur Éphésiens 1, on va voir la réalité en face. Voir ce que Dieu pense de nous. Ce qu'on va faire ensemble, c'est comprendre qui nous sommes et comprendre ce que nous avons en Christ. On va creuser la réalité de notre union avec Christ. Une des vérités les plus fondamentales par rapport à nous-mêmes. Et on va voir que comprendre cela, voir la réalité en face de qui nous sommes en Christ, c'est ça qui nous donne la sécurité, c'est ça qui nous donne le repos, c'est ça qui nous donne la joie. La Bible montre que être chrétien, c'est être uni à Jésus par l'Esprit, comme deux aimants qui sont collés ensemble. Ce qui lui arrive, nous arrive. Ce qui est vrai de lui est aussi vrai de nous. Et donc Dieu nous voit, comme on va le voir, Dieu ne nous voit jamais comme étant séparés de cet aimant, séparés de Jésus, mais toujours comme étant un avec lui. Et c'est ça qui change totalement ce que Dieu pense de nous. C'est ça qui peut nous donner l'encouragement, le réconfort, la sécurité quand on vit avec ce sentiment d'échec. Dans ce texte d'Éphésiens 1, on va voir une vérité fondamentale qui nous amène à mieux apprécier notre salut. Une vérité fondamentale qu'on va voir dans ce texte pour bien comprendre notre salut, ça ce sera dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra, on essaiera d'appliquer ça à nos vies, comment ça nous aide à mieux apprécier la manière dont Dieu nous sauve. Donc premièrement, mieux comprendre notre salut. Quelle est cette vérité fondamentale par rapport à la manière dont le salut fonctionne que ce texte met en avant? Dans ce texte d'Éphésiens 1, Paul décrit les richesses merveilleuses qu'on a en Christ. Les bénédictions qui sont les nôtres. On pourrait dire les cadeaux que Dieu nous a donnés. Et le verset 3, c'est un bon résumé. Donc si vous avez le texte sous les yeux, je vous invite à le prendre et à regarder avec moi le verset 3 qui résume bien ce passage. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Paul veut bénir Dieu, il veut le louer, l'adorer. Pourquoi ? Parce que Dieu est celui qui nous a bénis. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous pensez à la bénédiction de Dieu sur votre vie. À quoi est-ce que vous pensez quand vous comptez les bienfaits de Dieu, comme le dit ce cantique qu'on chante, « Compte les bienfaits de Dieu ». À quoi est-ce qu'on pense ? Il faut être honnête que souvent, on pense assez premièrement aux bénédictions matérielles, physiques, à la santé, la sécurité, le confort. Et ce n'est pas que ces choses sont nécessairement mauvaises, mais ce que Paul veut mettre en avant ici, c'est quelque chose de bien plus grand, de bien plus merveilleux, de bien plus glorieux. Paul met en avant pas des bénédictions matérielles, mais des bénédictions spirituelles. Il nous dit « Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ». C'est-à-dire des bénédictions qui viennent de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Et dans les versets suivants, les versets 4 et suivants, Paul va lister ces cadeaux que Dieu nous a donnés, ces bénédictions qui valent tout l'or du monde. Mais ce que j'aimerais souligner en particulier avec cette prédication, c'est la source de tous ces bienfaits. Tous ces cadeaux ont une seule et même origine. Ils se trouvent en Christ. Et on le voit dans ce verset 3, « Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. » Dieu a choisi de nous bénir et il l'a fait en la personne de Jésus-Christ. Et ce qui est dit ici dans ce verset 3, c'est une idée qui est répétée tout au long du passage. On voit dans ce passage, les versets 4 et suivants, une répétition de cette phrase « en lui ». Pour parler de Christ. Et les enfants, si vous avez la feuille, je pense que c'est une des questions qui vous est posée, donc voilà, vous avez la réponse. Vous devez entourer toutes les fois où il est parlé de « en lui, en Christ », parce que ça revient encore et encore. Il le dit au verset 4, « en lui », c'est-à-dire « en Christ, Dieu nous a élus ». Au verset 7, « en lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés ». Au verset 11, « en lui, nous avons été mis à part », ou dans notre traduction, « on a reçu l'héritage ». Verset 13, « En lui, vous avez entendu la parole de vérité et vous avez cru. » Donc alors que Paul décrit tous ses cadeaux, alors que Paul décrit toutes ses bénédictions, alors qu'il parle de l'élection, du pardon des péchés, de la rédemption, de l'héritage que l'on a, de toutes ces choses merveilleuses, Paul veut souligner à plusieurs reprises qu'ils viennent tous de la même source, le Seigneur Jésus-Christ. C'est en Christ, en lui, le seul endroit on peut avoir ces bénédictions. Ce que cette expression désigne, c'est cette réalité justement de notre union avec Jésus. En lui, c'est-à-dire en étant unis à Jésus, en étant un avec lui, en étant considéré comme étant un avec lui par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on peut recevoir ces bénédictions de Dieu. Qu'on est béni, qu'on est élu, qu'on est racheté, qu'on est adopté, qu'on est héritier. Et donc voilà la vérité fondamentale, c'est que Dieu nous sauve en nous unissant à Jésus. C'est lui qui a toutes ses bénédictions, c'est lui qui a tous ses bienfaits. Et donc le seul moyen pour nous de les obtenir, c'est d'être fait un avec lui. Et il faut bien comprendre que ce que ce texte met en avant, ce que Éphésiens 1 met en avant, c'est pas simplement que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Ça, c'est vrai. Amen. La Bible dit qu'il y a un seul moyen pour être sauvé, c'est Jésus. Il y a un seul chemin pour accéder au Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul nom par lequel on peut être sauvé dans ce monde, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est le seul qui peut régler le problème de notre péché, le problème de notre condamnation, le problème de notre rébellion envers Dieu qui entraîne un jugement. Cette réalité qui nous concerne tous, chacun de nous. Jésus est le seul qui peut régler cela par sa vie, sa mort et sa résurrection. Par sa vie parfaite, sans aucun péché, sans jamais avoir transgressé la loi de Dieu, en ayant vécu cette vie qui plaît constamment à Dieu. Par sa mort sur la croix à notre place, alors que Jésus prend la punition qu'on mérite, par sa résurrection, alors qu'il est vivant, qu'il est vainqueur sur la mort, vainqueur sur le péché. Donc la seule solution pour notre salut, c'est Jésus, c'est lui qui peut l'offrir. Ça, je pense qu'on est tous convaincus de cela, ou en tout cas, si vous fréquentez cette église régulièrement, vous êtes convaincus de cela. Mais Éphésiens 1 va plus loin que ça. Non seulement, sans Jésus, il n'y a pas de salut possible, mais également, sans être uni à Jésus, ce salut ne peut pas devenir nôtre. Non seulement sans Jésus, il n'y a pas de salut possible, mais aussi sans être en lui, sans être uni à lui, alors ce salut ne peut pas devenir nôtre. C'est en lui qu'on a la rédemption, le pardon des péchés, l'adoption et tous ces cadeaux merveilleux. Alors bien évidemment, l'œuvre de Jésus est suffisante. Il n'y a rien qui doit être ajouté. Ce que Christ a fait sur la croix est totalement suffisant. Mais pour que ce salut soit nôtre, pour qu'il soit appliqué à nous, il faut qu'on soit intégré à lui. Il faut qu'on soit fait un avec lui. Peut-être qu'une image peut aider à comprendre cela. Imaginez une maison qui vient d'être construite, toute neuve. Il y a tout qui a été fait, c'est magnifique. Les murs sont faits, le sol, il y a même le four qui a été installé, le lave-vaisselle, la machine à laver, toutes ces choses-là, tout est installé, c'est magnifique. Le seul problème, c'est que la maison n'a pas encore été reliée à l'électricité de la ville. Donc il n'y a pas de courant dans la maison. Il y a beau avoir tout le travail qui a été fait, tant que la prise n'est pas branchée, alors je sais que c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour nous qui n'y connaissons rien, tant que la prise n'est pas branchée, le four ne marchera pas, le lave-vaisselle ne marchera pas, les lumières ne marcheront pas. Il n'y aura pas d'électricité. Alors c'est une illustration, c'est limité, mais ça peut aider à comprendre comment ce que Christ a fait pour nous ne nous profitera pas tant qu'on n'est pas branché à lui, d'une certaine manière, tant qu'on n'est pas fait un avec lui. Voilà la manière dont Jean Calvin, le réformateur français du XVIe siècle, décrivait cette réalité. Voilà ce qu'il dit. Il est clair que tant que nous ne sommes pas à Christ, tout ce qu'il a fait ou souffert pour le salut des hommes est dépourvu de sens et d'utilité pour nous. Pour que nous bénéficions des biens dont le Père l'a comblé, il faut que nous soyons à lui et qu'il habite en nous. Rien de ce qu'il possède n'est nôtre, comme nous l'avons dit, tant que nous ne sommes pas un avec lui. Fin de citation. Ce que Jésus a accompli ne peut nous bénéficier que si nous sommes attachés à lui, par la foi, unis à lui. Et ce dont on parle ici, c'est rien d'autre que ce qui se passe à la conversion. On n'est pas en train de parler d'une autre expérience, de quelque chose de mystique qu'il nous faudrait poursuivre, rechercher. Non, cette union avec Jésus, c'est ça justement la conversion. Oui, la conversion, c'est placer sa foi en Jésus. C'est se repentir et croire, se détourner de ses péchés pour se tourner vers Jésus. Mais ce n'est pas quelque chose de distant. Ce n'est pas quelque chose de lointain, comme si on adhérait à une organisation de loin, on signe un papier, et puis voilà, on devient membre d'une organisation lointaine. Non, la Bible dit que quand on devient chrétien, le Saint-Esprit nous unit à Christ. Il nous fait un avec lui. C'est une union personnelle et intime. On a cette réalité dans beaucoup de langages que la Bible utilise à différents endroits. Quand il est dit que Christ vit en nous, qu'il habite en nous par l'Esprit, ou que nous sommes en lui, qu'il est assis à la droite de Dieu, que nous sommes avec lui, on voit qu'il y a une union avec Christ, il y a un lien entre nous et Christ. Dans la pensée de Dieu, on n'est jamais séparé de Christ. Peut-être pour le rendre de manière plus concrète, si je suis chrétien, ça veut dire que j'existe pas de manière indépendante. Dieu ne voit pas juste moi, il ne voit pas juste Benjamin. Et c'est ça la merveille des merveilles, c'est qu'il voit Benjamin en Christ, comme unis à Christ. Et c'est la même chose pour chacun de nous, si on est chrétien. C'est ce qu'il se passe lors de la conversion, cette union avec Christ. Un chrétien n'existe pas comme déconnecté de Christ, mais uni à Christ. Et j'aimerais juste, avant qu'on tire des bénéfices de ce qu'on a vu et qu'on passe à la partie où on applique ces vérités, j'aimerais juste montrer un autre verset qui explique cette réalité, ailleurs que dans Éphésiens 1. C'est dans Romains, chapitre 16, au verset 7, je vais vous le lire, où c'est un peu juste en passant que Paul dit cela, mais en le faisant, on voit qu'il met en avant une vérité très précieuse. Paul est en train de parler de deux personnes, et il veut parler de deux personnes qui sont devenues chrétiennes avant lui. Ces personnes qui sont devenues chrétiennes avant lui, et voilà comment il le dit.
Romains 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Ou plus littéralement, qui étaient en Christ avant moi.
Donc c'est frappant de voir ça, que Paul, pour dire que ces deux personnes sont devenues chrétiennes avant lui, il dit « elles étaient en Christ avant moi ». Elles étaient unies à Jésus avant moi, parce que c'est ça que ça veut dire d'être chrétien. Être chrétien, c'est être uni à Christ. C'est ça la différence fondamentale entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas. Ce n'est pas avant tout les choses externes, ce qu'on peut faire, aller à l'église, lire la Bible, prier. C'est facile d'imiter ces choses, c'est facile de copier ces choses. Mais la différence fondamentale entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est sa relation avec Jésus. Un chrétien est uni à Jésus, il est en Christ. Par nature, on n'est pas en Christ. Par nature, quand on est en Adam, on est uni à Adam, marqué par le péché. Et le salut, c'est changer de sphère, changer de représentant, être uni à quelqu'un d'autre. Et ça a des conséquences merveilleuses, comme Éphésiens 1 nous le montre. On est au bénéfice de toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner. Alors voilà la vérité fondamentale pour mieux comprendre notre salut. Quand Dieu nous sauve, il nous fait un avec Jésus. Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment est-ce que ça peut m'aider à répondre à ce sentiment d'échec, ce sentiment de penser que Dieu n'est pas satisfait avec moi? Voyons maintenant, dans un deuxième temps, comment cette vérité nous aide à mieux apprécier notre salut. Comment ça nous amène à avoir plus d'assurance, de joie, de paix, de confiance en Dieu. D'abord, cette vérité de notre union avec Christ nous montre que notre salut est personnel. Quand on pense au salut, quand on pense au pardon des péchés, quand on pense à la justification, le fait que Dieu nous déclare juste, quand on pense à notre adoption, le fait que Dieu fait de nous ses enfants, c'est facile de voir ça comme des cadeaux externes que Dieu nous donne à distance. Quelqu'un disait qu'on peut avoir tendance à voir ça comme des marchandises que Dieu peut-être jetterait du haut du ciel. Mais Éphésiens 1 nous montre que ce n'est pas le cas. La Bible nous montre que ce n'est pas le cas. Que le salut, ce n'est pas le don de choses que Dieu donnerait à distance, mais c'est le don d'une personne. Dieu nous donne le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa personne. Dieu a voulu nous bénir et il l'a fait en nous unissant à Jésus. Et c'est comme ça qu'on reçoit tous ses bienfaits. Le salut ne concerne pas des vérités abstraites et déconnectées les unes des autres. Mais notre salut concerne avant tout une personne, la personne de Jésus-Christ. Autrement dit, le salut, le pardon des péchés, ce n'est pas comme un papier qu'on reçoit à l'administration. Récemment, comme maintenant on vit en Suisse, j'ai dû changer mon permis pour avoir un permis suisse et donc j'ai dû abandonner mon permis français. C'était une grande étape pour moi, mais j'ai eu la joie de recevoir un permis suisse, donc c'est génial. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai été à l'administration, à un guichet, j'ai donné des papiers et j'ai reçu quelque chose. Je suis parti et j'espère ne plus jamais y retourner. Il y a un échange qui est fait, une transaction, mais il n'y a aucune relation. Il n'y a pas quelque chose de plus profond que cela, il n'y a pas de raison de revenir, c'est distant, c'est efficace, et ça s'arrête là. Peut-être c'est comme ça qu'on voit le salut, qu'on voit la vie chrétienne. Un peu comme un passeport pour le ciel que Dieu nous donne au début de la vie chrétienne, et puis après on passe à autre chose, il n'y a plus de raison d'y revenir, on a eu ce dont on avait besoin, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas comme ça que la Bible décrit le salut. Le salut est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. En fait, il faudrait comparer le salut plutôt au mariage. C'est ce que Paul fait dans Éphésiens 5, quand il met en avant le fait que le mariage humain est une image d'un mariage plus grand, d'une relation plus grande entre Christ et son Église. Les mariés mettent tout en commun. Ce qui est à l'un est à l'autre, et vice-versa. Et c'est ce qui se passe dans le salut. Christ est l'époux parfait. Et il se donne à nous. Dieu nous fait un avec lui. Et donc, ce qui est nôtre devient le sien, et ce qui est le sien devient le nôtre. Et si on prend le temps de réfléchir à ça, c'est vraiment merveilleux. Parce que qu'est-ce qui est nôtre? Qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qu'on apporte? Notre péché? Notre condamnation? Ce sentiment d'échec? Le jugement qu'on mérite? Et qu'est-ce qui est sien? Qu'est-ce qui est à Christ? L'amour de Dieu, l'amour de son Père, l'obéissance parfaite, toute l'affection de son Père, dont il est le Fils bien-aimé, la justice parfaite. Et c'est là qu'on voit que dans le salut, alors que Dieu nous fait un avec Christ, il y a un échange merveilleux où on a tout à gagner. Voilà ce que Martin Luther, un autre réformateur, allemand ce coup-ci, du XVIe siècle, dit par rapport à cela. Je cite « Comparons ces deux choses et nous verrons des avantages inestimables. Le Christ est plein de grâce, de vie et de salut. Mon âme est pleine de péché, de mort et de condamnation. Mais que la foi s'interpose entre eux et mes péchés, ma mort et ma condamnation seront au Christ, tandis que sa grâce, sa vie et son salut seront pour mon âme. » C'est ça le salut, c'est ça qui est merveilleux. Christ prend sur lui mon péché, il prend sur lui ma condamnation, comme si elle était la sienne. Et il me donne sa perfection, il me donne sa justice, comme si elle était la mienne. Et ça a lieu parce que je suis fait un avec lui. Donc non seulement notre salut est personnel, mais ça nous amène aussi à dire que notre salut, grâce à notre union avec Christ, il est fixe, il est stable, il ne va pas changer. Mon salut ne dépend pas de moi, mais il dépend réellement de Jésus. Pourquoi est-ce que je suis pardonné de mes péchés? Pourquoi est-ce que je suis justifié devant Dieu, juste devant lui? Pas parce que je l'aurais mérité, pas parce que j'aurais fait des choses pour impressionner Dieu, mais grâce à Jésus, grâce à sa perfection, grâce à son œuvre, et grâce au fait que je suis un avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer. C'est ça la nouvelle merveilleuse. C'est de ça que dépend mon salut, de lui, de Jésus, de mon union avec lui. Et ce n'est pas quelque chose qui va changer. Oui, nos sentiments fluctuent, comme on va le voir. Il y a des hauts et des bas. Notre ressenti de cette union qu'on a avec lui peut fluctuer. Il y a des hauts et des bas. Mais ce n'est pas quelque chose qui va changer. Quand Dieu me sauve, il me fait un avec Jésus pour l'éternité. Cette union, ce lien qui me lie à mon Sauveur, il est indestructible. Il ne va pas changer. Et donc tout aussi vrai que je suis uni à Jésus par l'Esprit, alors je suis au bénéfice du pardon des péchés, de la rédemption, de la justice de Jésus, et Dieu ne va pas me rejeter. Ça dépend de rien de ce que j'ai fait, ça dépend de rien de ce que j'aurais pu faire, et ça dépend de rien de ce que je vais faire. Et comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça la grâce. Quelque chose qu'on ne mérite vraiment pas, mais que Dieu nous donne quand même. Autrement dit, le salut, le pardon des péchés, ce n'est pas comme si nos compteurs étaient remis à zéro et que Dieu nous disait maintenant, mais tiens-toi bien hein, pour prouver que tu le mérites. Et c'est là justement qu'on a l'impression d'échouer, de ne pas être à la hauteur, qu'on n'est pas en train d'avoir une bonne note parce que Dieu a remis les compteurs à zéro et maintenant c'est à nous de montrer qu'on a une bonne note, qu'on le mérite, qu'on a l'impression que Dieu nous tolère. Mais si le salut, c'est être uni à Jésus, si en ce moment Dieu ne me voit pas comme étant tout seul, moi indépendamment, mais comme étant en Christ, un avec lui, alors ça change tout. C'est une merveilleuse nouvelle, parce que Jésus mérite d'être béni. Dieu le Père ne va pas retirer son amour au Fils, à son Fils. Et donc si je suis uni à Jésus, je suis certain de recevoir les mêmes bénédictions. Je suis certain de recevoir le même amour, parce que Dieu me voit comme étant en Christ. Et donc, tout l'amour de Dieu qui est déversé sur son Fils est mien, parce que je suis en lui. Et là, on se demande, mais à quel point est-ce que le Fils est aimé par le Père? Cet amour est mien, parce que je suis en lui. On se demande, mais est-ce que Jésus peut être rejeté de la présence de Dieu? Ben on a la même assurance devant Dieu, parce qu'on est en lui, en Christ. On pourrait dire que Christ, il est l'entonnoir de l'amour de Dieu. C'est par Christ que l'amour de Dieu passe. Et donc, tant qu'on est uni à cet entonnoir, on est au bénéfice de l'amour de Dieu et ça ne va pas changer. C'est pour ça que Romains 8 nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que cet amour de Dieu, il est en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est là l'endroit où l'amour de Dieu se trouve. Et c'est là qu'on est. Et donc on est au bénéfice de cet amour, on est au bénéfice de cette grâce, après grâce, après grâce. Sans l'avoir mérité, et sans jamais le mériter, et sans avoir besoin de le mériter. C'est ça qui est merveilleux. Et donc ça veut dire que à n'importe quel moment de la journée, je peux regarder en l'air et voir, je parle métaphoriquement ici, voir les bras de Dieu qui sont grands ouverts pour m'accepter parce qu'il me voit comme étant en Christ. Et alors on se dit peut-être, non mais attends, je ne le mérite pas. Non mais attends, tu vois pas ma vie, tu vois pas ce que j'ai fait. Mais ça ne dépend pas de ce qu'on a fait, de ce qu'on aurait pu faire, de ce que l'on va faire, mais de cette réalité que être chrétien, c'est être en Christ. Et donc c'est être au bénéfice d'un amour qu'on n'a pas mérité et qu'on ne pourra jamais mériter. Ça montre aussi qu'on est tous au même niveau en tant que chrétien. Il n'y a pas des niveaux entre des chrétiens qui ont plus de valeur aux yeux de Dieu que d'autres, comme si certains étaient plus justifiés que d'autres, plus enfants de Dieu que d'autres, plus aimés par Dieu que d'autres. Peut-être on peut avoir ce sentiment. Pensez cela en regardant autour de nous. Mais pour chacun de nous, la raison pour laquelle on a ces choses, ce n'est pas nos performances, mais c'est parce qu'on est en lui, parce qu'on est en Christ. On se dit peut-être, mais lui doit être plus aimé que moi. Attends, regarde sa vie. Mais il n'est pas plus uni à Jésus que toi. Il n'est pas plus aimé par le Père que toi, parce que l'amour de Dieu dépend du fait qu'on est en Christ. On le voit d'ailleurs dans notre passage, hein, quand Paul dit au verset 3 qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il n'y a rien que Dieu a gardé. Il a tout donné en la personne de Jésus-Christ. Et en lui, on est au bénéfice de toutes ces bénédictions. Voilà comment un auteur le dit. Pour le dire simplement, si vous êtes en Jésus-Christ, Dieu n'est pas en train d'attendre une version future de vous-même qu'il aimera davantage. On peut penser ça parfois, n'est-ce pas ? Ah, je dois être comme ça, et là, Dieu va m'aimer. Là, il n'aura pas le choix de ne pas me tolérer, mais de m'aimer réellement. Mais cette vérité de notre union avec Christ montre que Dieu n'est pas en train d'attendre une future version de nous-mêmes qu'il va aimer davantage. Il nous aime comme on est, parce qu'il nous voit comme étant en Christ. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas toujours ce qu'on ressent. Nos sentiments veulent souvent nous dire le contraire. Et on se lève souvent, comme je l'ai dit au tout début, avec ce sentiment d'échec, ce sentiment que Dieu est insatisfait avec nous. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? On ne doit pas regarder nos sentiments, mais on doit regarder plus loin à la réalité. Depuis qu'on a déménagé en Suisse, on a la joie d'être entouré, pas de bâtiments, mais de montagnes. C'est magnifique, c'est merveilleux. On pensait pendant longtemps habiter dans un Airbnb, mais en fait, on s'est rendu compte que non, c'est chez nous, on va y rester. On est entouré de montagnes, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a des belles montagnes autour de nous, mais certains jours, les montagnes ont disparu, parce qu'il y a du brouillard, il y a des nuages, et on a vraiment l'impression de ne plus avoir de montagnes. Donc on a l'impression d'être de retour en Belgique, que c'est plat, qu'il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas que les montagnes ont disparu. Les montagnes sont toujours là. Mais on a vraiment l'impression qu'elles ont disparu parce qu'elles sont cachées. Mais on doit regarder plus loin que le brouillard, plus loin que les nuages et savoir, mais il y a bel et bien des montagnes derrière. C'est ça la réalité. Et je ne vais pas laisser l'impression que j'ai prendre le pas sur la réalité. C'est ça qu'il faut faire quand on se lève avec cette impression que Dieu nous tolère, que Dieu ne nous aime pas, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne le mérite pas. Ce qu'on doit faire, c'est regarder plus loin et s'attacher à la réalité. Ce qu'on doit faire, c'est regarder la réalité en face. Cette réalité que Dieu nous voit, pas comme étant nous, indépendants, tout seuls, mais comme étant en Christ. Et c'est ça qui change tout. Ce qu'il faut, c'est regarder à Jésus lui-même. Et c'est là qu'on retrouvera l'assurance, la joie, la sécurité. Et c'est là où la foi chrétienne se distingue pas mal des méthodes modernes qui veulent nous dire, face aux difficultés, face au manque de sécurité, mais regarde à toi-même. La solution est en toi. Tu as un potentiel merveilleux que tu dois découvrir. Tu manques de confiance en toi. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, au travers de cette vérité de notre union avec Christ, face à notre manque de sécurité, face à notre manque d'assurance, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Parce que si on regarde en nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va voir? Oui, beaucoup de raisons d'être rejeté. Beaucoup de raisons d'être condamné. Beaucoup de raisons par lesquelles Dieu pourrait être insatisfait avec nous. Mais quand on regarde à Jésus, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'amour, on voit la grâce, on voit toutes les raisons que Dieu a de déverser son amour sur lui, et puis on se rappelle que c'est là qu'on est. C'est sous cette fontaine qu'on se trouve, et donc on est au bénéfice de tout l'amour de Dieu pour nous. Alors est-ce que le salut ne prend pas beaucoup plus de valeur comme ça? Est-ce que l'évangile ne prend pas beaucoup plus de valeur comme ça, en voyant l'importance et la centralité de la personne de Jésus? J'espère qu'on voit à quel point c'est une vérité précieuse, qui a beaucoup de bénéfices pour notre vie de tous les jours. Et j'aimerais juste terminer en nous rappelant que c'est ça qui définit qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. C'est ça la réalité la plus importante par rapport à nous-mêmes, que je suis en Christ. Et c'est important parce que les épreuves de la vie peuvent altérer qui nous sommes, peuvent changer notre identité. Ce qu'on pense être, on peut perdre son travail, on peut perdre sa santé, on peut perdre quelqu'un qu'on aime. Ça nous affecte au plus profond de nous-mêmes, parce que ça affecte qui nous sommes, et c'est normal. On peut perdre sa réputation, on peut perdre sa place dans la société, on peut perdre ce que les gens pensent de nous. Il y a beaucoup de choses, au final, qu'on peut perdre, qui affectent qui nous sommes. Mais avec ce qu'on a vu ce matin, on peut affirmer qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas perdre. Certaines choses qui ne changent pas et qui ne changeront jamais. Et ces choses, ça tombe bien, c'est les choses qui comptent le plus au monde. Celles qui définissent notre identité, celles qui définissent qui nous sommes de manière fondamentale. Le fait que je suis en Christ et tout ce que j'ai en lui, ça ne changera pas. C'est toujours aussi vrai, je suis toujours autant uni à Jésus, toujours aussi couvert de la justice de Christ, peu importe les épreuves de la vie. Et donc le regard que Dieu porte sur moi, son affection, sa joie, son amour, ça ne changera pas, parce que je suis toujours autant uni à Jésus. Et donc quand on a ce sentiment que Dieu nous tolère, qu'il n'est pas satisfait avec nous, c'est là qu'on doit regarder. Qu'il nous est favorable parce qu'on est en Christ. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que je passe tellement de temps à me soucier de ce que les gens pensent de moi. Ça vous arrive aussi? On perd tellement de temps et d'énergie à nous soucier de ce que les gens pensent de nous, à la réputation qu'on a, comment ils nous perçoivent, ce qu'ils pensent. Et puis je me rappelle qu'il n'y a qu'un seul regard qui compte. Ce que Dieu pense de moi. Et parce que je suis un avec Jésus, un avec son Fils bien-aimé, alors je peux vivre à chaque instant de ma vie avec l'assurance qu'il m'est favorable, qu'il est pour moi et pas contre moi, qu'il est bien disposé envers moi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ? De savoir que celui dont le regard compte le plus au monde nous est favorable et que son regard envers nous ne va pas changer parce qu'on est en Christ. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus pour vivre et mourir dans cette vie? Qu'est-ce qu'on a besoin de plus pour traverser les épreuves de la vie? Qu'est-ce qu'on a besoin de plus pour vouloir vivre avec zèle et reconnaissance pour ce Sauveur? Pour vouloir lutter contre le péché dans notre vie, pour pouvoir faire connaître l'Évangile autour de nous. Toutes les choses qu'un chrétien va faire trouvent au final leur racine, leur origine dans cette réalité que je suis en Christ. C'est ça le plus important par rapport à moi-même. Et c'est le meilleur endroit où je peux être. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va y rester. Prions ensemble pour terminer. Notre Dieu, alors qu'on médite la parole comme on l'a fait ce matin, alors qu'on se rappelle de ces vérités, on veut confesser qu'elles sont trop élevées pour nous, trop merveilleuses pour qu'on puisse les saisir, et que ça nous semble même trop beau pour être vrai. Mais notre Dieu, nous voulons nous attacher à la réalité que ta parole nous montre, que nous sommes en Christ. Ô notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté envers nous, jour après jour, qui ne changera pas. Aide-nous à nous attacher à cette réalité, aide-nous à voir plus loin que le brouillard, dans les hauts et les bas de la vie. Notre Dieu, on veut te prier pour que ces vérités nous donnent un zèle nouveau pour faire connaître Christ autour de nous, pour faire connaître le Sauveur qu'il est, et combien il est cet entonnoir de ton amour, par lequel tous peuvent connaître combien tu es un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu puissant. Je te prie que cette Église ici à Woluwe puisse continuer à faire cela, puisse continuer à proclamer Christ, le Sauveur pleinement suffisant qu'il est, et que beaucoup de personnes puissent être trouvées en lui. C'est en son nom qu'on prie et pour sa gloire. Amen.